message de réconciliation.
Robert Somerville, pasteur baptiste français à la retraite, traducteur de Martin Luther King lors d'une de ses visites en France.
Ne pas chercher la victoire sur l'autre, mais la réconciliation. Un jour nous vaincrons, mais ensemble, pas l'un contre l'autre. Et je crois que c'est quelque chose de très important, de ne vivre ensemble, ça passe avant réaliser nos ambitions, nos désirs, etc., ou nous, même nous protéger de certains désagréments. Ça, c'est un des points qui me paraît fondamental. Et la non-violence, au fond, est au service de la réconciliation. Ce n'est pas un but en soi, la non-violence, c'est un moyen. La résistance non-violente. Le souci de ne pas nuire à l'autre, de ne pas le détruire, même si lui a une attitude destructrice. Et puis le fondement pour Martin Luther King de cette pensée, en ce qui concerne la méthode, il devait beaucoup à Gandhi, mais en ce qui concerne l'inspiration, la force, c'est à Jésus-Christ qu'il la devait et il ne craignait jamais de s'y référer.
Le I have a dream speech et cette période marquent d'une certaine manière l'apogée, les mois qui suivent sont néanmoins très difficiles. Il y a eu notamment la mort du président Kennedy, l'attentat de Birmingham, mais il y aura encore la mort de jeunes participants au mouvement, et cela pendant l'année 64, où Martin Luther King reste la figure connue nationalement, internationalement, connue et reconnue, écoutée, invitée régulièrement à la Maison-Blanche, alors même que les difficultés pour inscrire les Noirs afin qu'ils puissent voter sont toujours énormes, et que tous ceux qui peuvent entraver le mouvement en faveur des droits civiques le font.
Mais là, Lyndon Johnson, qui prend la succession de John Fitzgerald Kennedy, assassiné, va quand même permettre à Martin Luther King de voir sa revendication en faveur de l'exercice des droits civiques couronnée de succès.
1964, King et son organisation, liée aux autres organisations d'ailleurs, mettent l'accent particulièrement sur cette question du vote, 1964 et 65. 64, c'est aussi l'année où King va être le récipiendaire du prix Nobel. Il est donc important d'écouter cet homme que le monde entier, ou en tout cas que les grands, écoutent. C'est dans la ville de Selma que la plupart des opérations liées au droit de vote vont se dérouler. Selma en Alabama, où vont se succéder manifestations, campagnes pour inscrire les Noirs sur les listes électorales. Et après des mois de travail et d'occupation de cette ville par l'organisation de King et les autres affiliés, effectivement, le président Lyndon Johnson signera un texte qui réaffirme solennellement, officiellement, le droit de vote des Noirs.
Dans votre livre, lorsque vous parlez de la vie de Martin Luther King, vous avez une nouvelle période qui commence. Vous parlez de ces années qui courent de 1965 à 1968 comme des années de crise. Pourquoi ?
Suite à cette grande campagne de Selma, qui est au fond couronnée de succès vu la signature par le président Johnson, le pays estime en avoir terminé avec ce qu'on appelle à l'époque le problème noir, qui est d'ailleurs plus un problème blanc qu'un problème noir. Il pense en avoir terminé puisque tout ce qui organisait, sous-tendait la ségrégation, tous les signes visibles de la ségrégation, que ce soit dans les lieux publics, que ce soit dans les transports, les questions de vote, tout cela a été réglé. Donc officiellement, extérieurement, le problème est réglé. Néanmoins, bien sûr, le racisme occupe d'autres espaces que les espaces immédiatement visibles, et ce sont les espaces de la pauvreté et du travail, voire de la place des Noirs au cœur de la société américaine.
20 megaton bombs in Russia.
Martin Luther King, le 4 février 1968 à Atlanta, dans l'église baptiste d'Ebenezer, l'église dont il est le pasteur.
Il existe en Russie, en ce moment même, des bombes de 20 mégatonnes capables de détruire une ville aussi grande que New York en 3 secondes. Et nous pouvons en faire autant en Russie et en Chine. Pourtant, nous dérivons dans cette direction parce que les nations sont en proie à l'instinct du tambour-major. Je dois être le premier. Notre nation doit gouverner le monde. Et j'ai la tristesse de dire que le pays où nous vivons est le plus coupable de tous. Et je continuerai de le dire à l'Amérique, parce que j'aime trop mon pays pour le voir dériver ainsi. Dieu n'a pas appelé l'Amérique à s'engager dans une guerre insensée et injuste comme la guerre du Vietnam. Nous nous conduisons de façon criminelle dans cette guerre. Nous avons commis presque plus de crimes de guerre qu'aucun autre pays au monde. Et j'ai l'intention de continuer à le dire. Et nous ne nous arrêterons pas à cause de notre orgueil national. Mais Dieu a sa façon de remettre les nations à leur place. Le Dieu que j'adore a sa façon de dire « Ne jouez pas avec moi ».
Voilà Martin Luther King, quelque part, reprofiler un peu son action, non plus en faveur des droits civiques, puisque la question semble en tout cas pour le moins résolue, mais plutôt en faveur d'une militance pour plus d'équité au sein de la société américaine.
C'est cela, dès 1966, King va pour la première fois s'installer dans le Nord, à Chicago, pour souligner les demandes de son organisation concernant le logement, l'emploi et l'intégration scolaire dans cette ville.
Donc là, Martin Luther King déménage et prend un logement dans un quartier très pauvre de Chicago.
Exactement. Mais il découvre très vite que la situation du Nord est extrêmement différente de celle du Sud. Il la connaît moins et l'impact de l'église ou des églises noires dans le Nord est tout autre que dans le Sud.
Donc là, il y a véritablement une sorte de fossé culturel entre un Sud très marqué par la foi chrétienne et un Nord qui est beaucoup plus industrialisé, qui connaît beaucoup plus des tensions sociales au niveau d'une certaine pauvreté, d'une certaine exclusion.
Oui, il faut dire aussi que les églises noires n'ont pas joué le même rôle dans le Nord, car si dans le Sud elles étaient le seul lieu autogéré pour les Noirs, dans le Nord il en est quand même tout autrement. Par ailleurs, à côté de ce problème lancinant de la pauvreté auquel s'attaque Martin Luther King, il y a une question qui préoccupe beaucoup King dès 65, même s'il en parle d'abord uniquement à ses proches et peut-être dans quelques prédications, mais peu officiellement, c'est la présence américaine au Vietnam.
Donc là, Martin Luther King va prendre publiquement position contre l'intervention des États-Unis au Vietnam.
Oui, c'est-à-dire que peu à peu, il est très touché, très sensibilisé à cette question. Il se rend compte aussi que si les Noirs peuvent mourir ensemble au Vietnam, et c'est vrai que l'armée est un lieu d'intégration fort, leurs corps ne peuvent pas être enterrés ensemble dans le même cimetière, par exemple. Et non seulement il va en venir à dénoncer la présence militaire américaine au Vietnam, mais il va même lier peu à peu ces deux combats, celui contre la pauvreté et celui contre le militarisme.
Et là, on peut dire que dans la vie de Martin Luther King, cette prise de position hostile à l'intervention des États-Unis au Vietnam va quelque part le rendre plus marginal, va ternir son image. Si tant est qu'il soit préoccupé par son image, bien entendu. Mais en tout cas, on a l'impression que Martin Luther King connaît à partir de cette prise de position hostile à la guerre du Vietnam une certaine éclipse.
Je l'ai dit, dès 65, pour beaucoup d'officiels, le problème noir est réglé. Donc King est de toute façon beaucoup moins consulté, beaucoup moins invité à la Maison-Blanche. Et tout cela redouble lorsqu'il ose proférer quelques critiques concernant l'image de son pays à l'étranger. Cela atteindra son comble lors d'une conférence à propos de la guerre du Vietnam. Il déclarera une année jour pour jour avant son assassinat, c'est-à-dire le 4 avril 1967, il déclarera « Mon pays est le plus grand pourvoyeur de violence en ce monde ». La phrase sera imprimée en caractère gras dans les journaux le lendemain et les télégrammes et lettres afflueront sur son bureau et sur celui de son organisation pour dénoncer cette phrase, pour dénoncer cette prise de position et pour surtout ne plus soutenir son organisation et notamment financièrement.
Ce désengagement de pas mal de gens à l'endroit de Martin Luther King nuira à son action ?
C'est-à-dire que ces vives critiques ne viennent pas seulement de ceux qui lui ont toujours été hostiles, ils viennent vraiment maintenant beaucoup plus largement. Ce sont même ceux qui l'ont soutenu, par exemple, et soutenu énormément, par exemple, les milieux, certains milieux financiers américains, une partie de la communauté juive américaine et même certaines organisations noires vont dénoncer King, se démarquer de lui en lui disant « si tu touches à l'image des États-Unis à l'étranger, c'est tout le mouvement qui va y passer. Donc il faut surtout pas parler de cela » et il se démarque de lui pour dire « nous on ne fait pas comme ça, donc continuez à nous soutenir ».
Martin Luther King à Memphis, la veille de son assassinat, le 3 avril 1968.
De temps à autre, je sens que nous pensons tous avec réalisme à ce jour où nous serons les victimes de ce qui est le commun dénominateur final de la vie, ce quelque chose que nous appelons la mort. Nous y pensons tous. Et de temps à autre, je pense à ma propre mort. Et je pense à mes propres funérailles. Et je n'y pense pas de façon morbide. De temps à autre, je m'interroge. Quelles paroles voudrais-je que l'on prononce à cette occasion ? Et je vous livre la réponse aujourd'hui. Si l'un de vous se trouve à proximité quand mon tour viendra, je ne veux pas de longues funérailles. Et si vous trouvez quelqu'un pour prononcer mon oraison funèbre, dites-lui de ne pas parler trop longtemps. De temps à autre, je me demande ce que je voudrais qu'il dise. Dites-lui de ne pas mentionner que j'ai eu le prix Nobel de la paix. Ce n'est pas ça qui importe. Dites-lui de ne pas mentionner que j'ai eu 300 ou 400 autres prix. Ce n'est pas ça qui importe. Dites-lui de ne pas mentionner où j'ai fait mes études. Je voudrais que quelqu'un mentionne ce jour-là que Martin Luther King Jr. a tenté de consacrer sa vie à servir les autres. J'aimerais que quelqu'un dise ce jour-là que Martin Luther King Jr. a tenté d'aimer quelqu'un. Je veux que vous disiez ce jour-là que j'ai tenté de voir clair à propos de la guerre. Je veux que vous puissiez dire ce jour-là que j'ai tenté de nourrir ceux qui avaient faim. Et je veux que vous puissiez dire ce jour-là que j'ai tenté dans ma vie de vêtir ceux qui étaient nus. Je veux que vous disiez ce jour-là que j'ai tenté dans ma vie de rendre visite à ceux qui étaient en prison. Je veux que vous disiez que j'ai tenté d'aimer et de servir l'humanité. Oui, si vous voulez dire que j'étais un tambour-major, dites que j'étais un tambour-major de la justice.
En 1967, Martin Luther King se lance dans une campagne pour les pauvres.
Le contexte, c'est qu'il y a cette guerre au Vietnam, il y a un début de montée du pacifisme, il y a des problèmes de pauvreté très graves, il y a encore des problèmes d'inscription pour pouvoir voter, et il y a des émeutes dans le Nord, assez fréquentes et graves également. Donc la situation est de plus en plus critique et c'est dans ce contexte-là que King et son organisation se disent qu'il faut proposer, lancer une action de grande envergure. Et cette action sera la campagne en faveur des pauvres. Pauvres, non pas pauvres noirs, ni pauvres blancs, mais pauvres de façon générale. C'est-à-dire qu'elle rassemblera noirs, blancs, hispaniques, chicanos, indiens, donc toutes les franges de la société atteintes, touchées par la pauvreté.
Martin Luther King va vraiment élargir le champ de sa militance.
Il a une autorité suffisante pour pouvoir rassembler avec lui, autour de lui, différentes communautés dont les intérêts sont au fond divers. Et c'est sous son autorité que cette campagne s'organise peu à peu au fil des mois. L'idée, c'est de conduire à une manifestation importante où toutes ces communautés seront rassemblées à Washington, camperont à Washington, jusqu'à ce que des fonds pour lutter contre la pauvreté soient débloqués. King ne verra jamais cela puisqu'il sera assassiné en avril, avant que cette campagne ait lieu.
Martin Luther King est assassiné à Memphis. Qu'est-ce qu'il fait à Memphis en avril 1968 ?
Depuis des mois, il prépare cette campagne. Mais en même temps, il reste attentif aux problèmes locaux. Et fin mars, il se rend à Memphis pour diriger une marche de protestation en faveur des éboueurs noirs de la ville. La manifestation est préparée à la hâte, trop vite, et elle sombre dans la violence. Au point que King se voit obligé de revenir pour une nouvelle manifestation afin d'effacer ce qui pourrait être préjudiciable à la campagne. Donc il revient début avril pour participer à une manifestation cette fois bien orchestrée, bien préparée, à Memphis. Il sera assassiné la veille.
Son autobiographie, Coretta Scott King, l'épouse de Martin Luther King, raconte la mort de son mari.
L'après-midi du jeudi 4 avril, je suis allée faire des courses avec ma fille Yolanda. Quelques semaines auparavant, j'avais décidé de ne pas acheter aux enfants de vêtements spéciaux pour Pâques. J'avais toujours pensé qu'on devrait considérer Pâques davantage comme une fête sacrée que comme cette célébration du printemps, cette occasion d'acheter des vêtements neufs pour les exhiber. Mais les enfants semblaient vraiment avoir déjà tant de choses à supporter avec l'emploi du temps de leur père qui les privait de sa présence si souvent et tout le reste, que l'idée de les accabler davantage en les obligeant à être les seuls sans vêtements neufs à l'école du dimanche me fit horreur. Martin fut d'accord avec moi et j'avais acheté des costumes neufs aux garçons le vendredi d'avant. Le jeudi, j'ai emmené Yoki dans le centre et je lui ai acheté des robes. Il n'y avait pas longtemps que j'étais de retour quand le téléphone a sonné. C'était Jesse Jackson. Il a dit « Coretta, on vient de tirer sur Doc. Je te conseille de prendre le premier avion possible à toute vitesse. » Le coup fut rude, non pas à la surprise, mais le choc d'entendre cet appel qu'inconsciemment j'avais paru attendre toute notre vie. J'ai demandé des détails à Jesse, et Jesse, pour m'épargner, a dit « Il a été touché à l'épaule. » J'ai compris que c'était très sérieux et j'aurais voulu demander s'il était gravement blessé, mais j'avais peur. J'ai dit « Je vais me renseigner sur le prochain avion. » On l'a emmené à l'hôpital Saint-Joseph, a dit Jesse. Viens à l'hôtel si tu veux et on te conduira à l'hôpital. Christine et son mari Isaac m'ont accompagné à l'aéroport avec le maire et Mrs. Ellen, ainsi que le révérend Fred Bennett et sa femme Bernita. J'avais l'impression, en remontant le long couloir plein de gens se hâtant, que c'était irréel, un cauchemar. Le maire m'a dit « C'est une chose si dépourvue de sens. Les gens apprendront-ils jamais ?» Puis j'entendis mon nom, que répétaient tous les haut-parleurs. « Quelqu'un me demande, » dis-je. Et j'eus une étrange impression de froid, car je savais que Memphis me donnait la nouvelle et qu'elle était mauvaise. Nous étions arrivés à la barrière, c'était le moment de monter dans l'avion. J'ai demandé au maire d'envoyer quelqu'un voir ce qu'on me voulait. Quelques minutes plus tard, j'ai vu approcher Dora McDonald marchant très vite, et j'ai remarqué son expression. Elle a couru vers moi en disant « Viens, il nous faut une pièce où nous asseoir. » Alors j'ai su que Martin était mort. Thank you.
de spéculations qui tournent autour de cet assassinat. Quelle est votre hypothèse?
Depuis une trentaine d'années, un homme, James Earl Ray, se trouve en prison après avoir été condamné pour l'assassinat de Martin Luther King. Contre lui, des empreintes sur une carabine qui a effectivement servi à cet assassinat. Cet homme a toujours nié, disant qu'il avait voulu acheter cette carabine et que c'est la raison pour laquelle ces empreintes se trouvaient dessus. Il n'a effectivement pas été arrêté dans les minutes qui ont suivi, mais quelques heures plus tard, et sa thèse, difficile de la vérifier. Maintenant, je crois qu'il faut surtout se rappeler qu'énormément de gens avaient intérêt à ce que King meure. King dérange à cette période. Il est en train de faire monter la vague pacifiste avec d'autres. Il s'oppose à l'image de son pays à l'étranger. Il réclame et organise une importante campagne en faveur des pauvres, qui pourrait coûter très cher en termes d'impôts, par exemple. Donc, il dérange. Donc, il s'agit de l'éliminer. Maintenant, qui a orchestré la chose? Il est bien difficile de le dire. J'ai envie de dire que on pourrait peut-être répondre au pluriel à cette question. Il est probable que le FBI, le Bureau fédéral d'investigation, savait un certain nombre de choses. Maintenant, les divulguera-t-il?
Tout comme pour l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, il y a toute une série d'hypothèses qui tournent autour de l'assassinat de Martin Luther King, et certains voient dans le FBI l'instigateur de cet assassinat. Qu'est-ce que vous en pensez, Serge Mola?
Non, je ne crois pas que le FBI est l'instigateur. Je crois que peut-être il sait un certain nombre de choses sur cet assassinat possible, mais je ne crois pas que Edgar Hoover, qui dirigeait ce bureau, malgré sa haine de Martin Luther King, sa haine des Noirs, je ne crois pas qu'il aurait franchi un tel pas. En revanche, ce qui est connu aujourd'hui, c'est que le FBI s'est intéressé à King depuis 1955 et qu'il a essayé de le déstabiliser de diverses manières. Tout d'abord en montrant que King était très fortement influencé par un ex-communiste blanc, donc cela portait le soupçon de communisme sur l'ensemble de l'organisation de King. Il a essayé de déstabiliser King d'un point de vue moral en critiquant sa vie et notamment sa vie personnelle et conjugale et en montrant enfin ses options radicales à comprendre de gauche au niveau politique. Et ce qui est intéressant peut-être à noter, c'est que dès les années 60, King est sur écoute et que c'est Robert Kennedy qui signe l'autorisation de mettre Martin Luther King sur écoute.
Martin Luther King dans son église d'Ebenezer à Atlanta le 4 février 1968.
It really doesn't matter what happens now.
On m'a transmis des avertissements, mais peu importe ce qui arrivera maintenant. J'ai quitté Atlanta ce matin et au moment du décollage de l'appareil, nous étions 6. Et le pilote nous a dit par l'interphone, nous sommes désolés d'avoir du retard. Mais nous avons le pasteur Martin Luther King à bord. Et pour être sûr que tous les sacs avaient été examinés, pour être sûr que rien de mal n'arriverait à l'avion, il nous a fallu tout vérifier soigneusement. Et nous avons fait garder et surveiller l'appareil toute la nuit. Et je suis arrivé à Memphis. Et certains commençaient à énumérer ou à commenter les menaces qui circulaient. Et ce que voulaient me faire certains de nos frères blancs, dont l'âme était malade. Ce qui va m'arriver maintenant, n'importe guère. Nous avons devant nous des journées difficiles, mais peu m'importe ce qui va m'arriver maintenant. Car je suis allé jusqu'au sommet de la montagne et je ne m'inquiète plus.
Like anybody, I would like to live
Comme tout le monde, je voudrais vivre longtemps. La longévité a son prix, mais je ne m'en soucie guère maintenant. Je veux simplement que la volonté de Dieu soit faite. Et il m'a permis d'atteindre le sommet de la montagne. Et j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu la terre promise. Il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Ainsi, je suis heureux ce soir. Je ne m'inquiète de rien, je ne crains aucun homme. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur.
Lorsque l'on lit les prédications de cette période, donc de 1967-68, c'est que à plusieurs reprises, Martin Luther King revient sur certains indices ou certaines indications presque prémonitoires concernant sa propre mort, son propre assassinat. Comment est-ce que vous percevez cela?
Les regards à ce sujet peuvent varier. Certains lisent chez King l'amorce d'une dépression, par exemple. Effectivement, il mentionne à plusieurs fois sa mort, il dit ce qu'il aimerait entendre. Non pas qu'il a reçu le prix Nobel ou de nombreux prix, mais qu'il a essayé d'être le tambour majeur de la justice, par exemple. Il évoque sa mort, il se compare d'une certaine manière à Moïse, et notamment la veille de sa mort, dans une petite église de Memphis. Il se compare à Moïse en disant: j'ai vu la terre promise, il se peut que je n'y pénètre pas avec vous, mais je veux vous faire savoir ce soir que notre peuple atteindra la terre promise. Donc il anticipe, il annonce, tout en disant bien que lui n'ira pas avec son peuple d'une certaine manière. Prémonition diront les uns, hasard diront les autres. Je crois que la situation est depuis des mois très difficile, les pressions énormes, les menaces constantes. King sait tout cela, il a perçu que cela faisait partie de l'étroitesse du chemin sur lequel il s'est engagé des années auparavant.